RCF.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
Et oui, prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et tout en prenant soin de la planète. Alors si vous ne connaissez pas le mode d'emploi, je vous le donne, il est extrêmement simple. Si vous avez une question de jardinage, si vous avez besoin d'un conseil, vous venez à l'antenne directement au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 ou alors par mail directement à l'adresse direct@rcf.fr. Et on salue tous les auditeurs de Radio Notre-Dame en Ile-de-France et de Radio Fidélité autour de Nantes qui viennent de nous rejoindre pour cette émission. Et je vous présente notre jardinière du jour. Bonjour Anne-Marie Nagelessen.
Bonjour Melchior, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices.
Merci d'être avec nous, c'est votre deuxième fois dans cette émission. On est ravis de vous entendre. Vous êtes jardinière et vous avez créé également ce que vous appelez le potager en carré à la française. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est ce potager ?
Oui, donc moi, ma spécialité, ce sont les légumes, en effet. Si les auditeurs me posent des questions,
oui.
c'est essentiellement tout ce qui est aussi vie du sol, agroécologie. Et donc, j'ai créé cette méthode du potager en carré à la française. Ça fait 25 ans que j'y travaille. Et elle consiste à organiser les légumes dans des petits carrés qui font 40 cm. On les met côte à côte et on peut ainsi optimiser l'espace et vivre en autonomie à deux personnes avec seulement 12 mètres carrés de surface cultivée. Et donc, à ma première intervention avec vous le 5 janvier, on avait eu un auditeur qui avait apporté un témoignage absolument extraordinaire puisqu'il vit en effet avec sa femme en autonomie avec ses 12 mètres carrés.
Voilà, le potager en carré à la française. On aura un petit cadeau à vous offrir, on n'en dit pas plus pour le moment, on va dire à partir de 10h30, Anne-Marie. Question traditionnelle dans cette émission, prenez-en de la graine, comment va votre jardin ?
Le jardin va bien, moi aussi. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'adore cette saison parce qu'il y a une activité du sol qui est intense. Et donc, on est en train vraiment de régénérer l'humus pour les prochaines cultures. Donc là, en ce moment, je continue de récolter. Je vous ai fait une petite liste de ce qui reste encore en ce moment. Petite, elle est assez longue, vous allez voir. J'ai encore plein de salades, j'ai de la mâche, de la roquette, j'ai beaucoup de betteraves encore, des carottes, évidemment des poireaux avec différentes variétés, le légume emblématique de l'hiver avec le poireau, ce sont aussi les choux.
Oui.
Donc là j'ai chou romanesco, j'ai chou brocoli, j'ai du chou kale, des choux raves, des céleri raves,
plein
de radis, des panais, enfin voilà, c'est le bonheur en fait. Bon, il va y avoir un petit vide le mois prochain, mais comme j'ai fait plein de conserves, je vais pouvoir faire la jonction. Et puis en même temps, voilà, tous les jardiniers, là on est en train de trépigner parce que c'est à partir du mois prochain qu'on va pouvoir commencer à faire des premiers semis en pleine terre et puis des semis en intérieur.
Ça veut dire, Anne-Marie, que même si on est en plein hiver, il y a encore des choses à récolter dans les jardins. Est-ce que ça ne dépend pas un peu des régions ? En France ?
Si, bien sûr. Donc nous, moi j'interviens là au nom d'une association qui présente ma méthode. On est à Chinon, en région Centre-Val de Loire. Mais c'est vrai que depuis 25 ans, j'ai fait plein de régions en France, dont le climat de montagne en Alsace, dans la vallée de Münster. Et là, c'est clair que, évidemment, quand il gelait très très fort ou qu'il y avait la neige, il y a un moment où j'étais obligée de retirer beaucoup de légumes. Je parlais des radis noirs, des panais, tout cela qui ne tenait pas parce que malgré les couvertures de sol, le sol gelait et faisait pourrir en fait les légumes. Mais je connais une jeune femme que j'adore, qui a une trentaine d'années. Elle est en Haute-Savoie à 1000 mètres d'altitude et elle vit en autonomie avec les 12 mètres carrés. Non, un peu plus. Elle a deux, peu importe. Elle a deux, trois mètres carrés en plus. plus, et elle vit en autonomie avec son mari et ses deux enfants. Et en effet, elle arrive à, en protégeant les cultures, à récolter encore tardivement, quoi.
Donc voilà, il est toujours temps, en tout cas, d'aller récolter dans son jardin en fonction de la région. Je vous propose d'accueillir Anne-Marie, notre première auditrice de cette émission. C'est Marie-Hélène au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Hélène, vous êtes dans la Loire.
Oui, bonjour. Bonjour madame. J'ai bien entendu que votre spécialité c'était des légumes. Je suis désolée, moi je vais commencer par une question concernant plutôt les arbustes fleuris. Voilà, j'ai un cognassier du Japon qui est ancien, qui est magnifique, qui donne énormément de fleurs, et je dois le déplacer, ou alors, si je peux pas le déplacer, au moins comment faire pour le bouturer, le mettre, garder cette magnifique plante, mais la mettre ailleurs.
Merci Marie-Hélène pour votre question à propos du cognassier du Japon. On est sur un déplacement de plante, Anne-Marie.
Oui. Pourquoi vous voulez, Marie-Hélène, déplacer cet arbuste?
Parce qu'il va y avoir des travaux sur la maison et il ne pourra plus rester là où il est. D'ailleurs, il a poussé peut-être de façon un peu sauvage, il a déplacé une gouttière. Enfin bon, voilà, il est vraiment... voilà, j'ai pas le choix, il faut que je l'enlève, mais ça me fait beaucoup de peine de me dire que je vais carrément le supprimer. Donc j'aimerais bien soit le déplacer, soit lui permettre de faire des petits ailleurs, quoi.
Oui, l'idéal ce serait que vous le déplaciez parce que bon, je pense en même temps qu'il a, il doit quand même être bien développé et voilà, si vous faites une bouture, ça va être très long ensuite pour avoir le même arbuste. Donc, écoutez, c'est pas quelque chose de compliqué en soi, si ce n'est la partie où il va falloir en effet le déraciner du sol. Idéalement, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser une grelinette. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil.
Un très bel arbre, enfin il est énorme. Donc je ne sais pas avec la grelinette si je vais réussir à aller assez profond.
Oui, alors... nous ici on a l'expérience parce qu'à l'association on a déménagé trois fois le jardin, y compris les arbres, les arbustes, les fruitiers, et on a tout fait, alors y compris dans des sols argileux. Je sais pas ce que vous avez comme sol, mais voilà, c'est quand même des sols qui peuvent être assez compliqués en effet à aller chercher en profondeur, et on a tout fait avec cet outil. Alors pour démarrer, on a utilisé la grelinette, et puis en effet, quand les racines étaient en profondeur, on avait ameubli autour avec la grelinette, et ensuite on prenait une bêche. Ouais. Donc vous commencez de manière très large autour de l'arbuste pour voir jusqu'où vont ses racines, et vous allez essayer d'en garder, d'en préserver le maximum. Ensuite, en fonction du système racinaire, vous allez préparer le nouveau lieu avec en creusant un trou. Donc de la même manière, pour pas vous casser le dos, vous démarrez avec la grelinette et vous terminez avec une bêche ou une pelle pour retirer la terre, et vous allez venir donc redéposer votre arbuste, recombler avec la terre de votre jardin, et en surface, je dirais dans les 7-10 derniers centimètres du sol, vous apporterez du compost et arrosage, alors en abondance, hein, quand on transplante une plante, il faut surtout pas qu'elle ait de stress hydrique. Donc vous arrosez jusqu'à temps que ça fasse une grosse flaque, et là vous venez avec une couverture de sol sur le dessus. Ça peut être des feuilles mortes, de la tonte de pelouse, du foin, etc.
Voilà Marie-Hélène, ce sont de bons conseils là pour votre cognassier du Japon.
Oui, je vous remercie pour ces conseils, mais là en fait je suis un peu pris de court parce que maintenant il commence à être en fleurs. Est-ce que ça va pas être trop préjudiciable pour lui?
Est-ce que c'est le bon moment, rapidement, Marie-Hélène, Anne-Marie, pardon, je me trouve avec les prénoms, sachant qu'il est en fleurs.
Ouais, mais de toute façon, il va subir un stress. Donc, je veux dire, un arbuste comme cela, au moment où on le transplante, de lui-même, il va faire tomber ses fleurs, je pense. Très probablement, parce que il faudra qu'il mette ses énergies ailleurs. Là, comme on n'a quand même pas de grand froid, personnellement, si vous le pouvez, moi, je le déplacerai là, maintenant. C'est le week-end qui est demain après-demain. Et puis, éventuellement, vous le taillez un peu pour que, voilà, s'il a vraiment une ramure importante, il ne pourra pas tout alimenter, en fait. Donc, vous le rabattez un tout petit peu et puis vous en prenez vraiment bien soin cette année en l'arrosant très régulièrement. Et vous verrez, soit il fera quand même quelques fleurs, soit ce sera un peu compliqué. Et par contre, vous le retrouverez l'année prochaine.
Merci Marie-Hélène pour votre question au 04 72 38 20 23. Est-ce que vous en avez, vous Anne-Marie, un cognassier du Japon, peut-être pour décorer les alentours du carré?
Eh bien non, et du coup ça me donne
envie.
oui c'est ça, parce que en effet le
c'est ici, très beau, donc, hein.
Ouais, exactement. Et le potager en carré à la française est vraiment entouré par de la végétation ornementale dans laquelle on a plein d'abris pour les insectes. Et on a justement une partie du jardin, parce qu'on a déménagé ici il y a 2 ans et demi seulement. Et donc, je me dis, tiens, cognassier du Japon, ce serait très joli. Donc, cet endroit qu'on doit réaménager.
Je vous lis une question de Jean-Luc qu'il nous a envoyé par mail à l'instant. Est-ce le bon moment pour préparer les lasagnes dans nos jardins en permaculture? Qu'est-ce que ça veut dire, Anne-Marie, les lasagnes?
Ah, quel est le prénom?
C'est Jean-Luc.
Jean-Luc. Alors, Jean-Luc va pas être satisfait par ma réponse.
Ah.
Parce que moi, je pratique l'agroécologie et je ne pratique surtout pas la permaculture. Donc, les lasagnes, je n'en fais absolument pas. J'ai fait ça il y a 15 ans dans toutes les expérimentations quand j'étais en train de créer ma méthode, et en particulier pour les potagers surélevés, par exemple pour des personnes qui sont à mobilité réduite, en fauteuil roulant ou autre. Et en fait, ça n'est que du compostage, il faut renouveler chaque année. Alors que le plus écologique et le plus simple pour le jardinier, c'est de partir de la vraie terre végétale du jardin et de venir l'amender en surface avec du compost et des couvertures de sol permanentes, ce que fait la nature. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas de lasagne. Si c'était une solution, la nature l'aurait déjà trouvée. Et donc, je ne conseille pas, parce que en plus, nous en stage, j'ai des personnes qui viennent, qui ont eu ces pratiques et qui ont un sol où elles rencontrent ensuite beaucoup de problèmes. Et du coup, voilà. Par respect, je ne peux pas encourager des pratiques qui, je sais, ne sont pas bonnes.
Et c'est votre choix, Anne-Marie, et il n'y a aucun souci pour en parler. Les lasagnes, juste en un mot, c'est des couches qu'on superpose. Il y a à la fois du carton, je crois, des feuilles mortes, de la paille, quelques pellicules, voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est aussi un très, très bon plat que vous pouvez manger, et je vous le conseille. Alors, après les lasagnes, on a une autre question, Anne-Marie. C'est Françoise, tout de suite, qu'on va accueillir. Bonjour, Françoise.
Ma question.
Je vais vous laisser couper votre radio si ça vous dérange pas derrière, comme ça il n'y aura pas d'écho.
Voilà, là il n'y a pas d'écho.
Ah ben j'entends.
Vous entendez la radio?
Ah oui, j'entends la radio.
Bon, alors j'étais dans une autre pièce.
Oui, mais... si ça vous dérange pas, voilà, c'est... Non. Anne-Marie, il va falloir prendre l'habitude, vous verrez, quand vous allez venir dans Prenez-en de la graine. Parfois, on a des auditeurs qui ne coupent pas la radio alors qu'on leur dit, mais c'est pas grave. Voilà, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal.
Je l'ai entendu dans vos précédentes émissions.
Ouais, exactement. Françoise, allez-y, on vous écoute.
Bonjour. Voilà, je voudrais savoir, j'ai du jasmin d'hiver, tout jaune et tout fleuri. C'est magnifique, mais je voudrais en transplanter ailleurs. Est-ce que c'est la bonne saison pour le faire?
Oui, bonjour. Ah, nous aussi, on en a du jasmin là qui est en fleur. Alors, lui, vous avez peut-être constaté, il se marcotte. Il a tendance à s'étaler.
Oui, il s'étale, mais je voudrais en mettre, je veux garder celui qui est juste devant la maison, mais je voudrais en mettre ailleurs Est-ce que je peux prendre des boutures?
Exactement. Alors, en fait, ça va pas être des boutures. Vous allez prendre les petites parties qui se sont marcotées dans le sol, qui ont déjà leurs petites racines. Et vous allez pouvoir les tout simplement en coupant avec un sécateur les branches, en retirant délicatement les racines du sol avec une petite pelle, et vous allez pouvoir les installer aux endroits qui vous plaisent. Et lui, de toute façon, le plan mère, il va continuer à remarcoter cette année sans problème. Donc pareil, hein, vous à l'endroit où vous voulez l'installer, vous ameublissez surtout bien le sol de ce nouvel emplacement, parce que vous allez sûrement avoir des petites racines toutes fragiles, donc qui auront pas la capacité de entre guillemets percer un sol trop tassé. Donc vous ameublissez le mieux possible. De la même manière, vous allez venir en surface avec du compost bien arrosé et une couverture de sol, de la tonte de pelouse, des feuilles mortes ou autres.
Voilà,
c'est tout simple.
En
couverture de sol, si vous avez, moi par exemple en ce moment là, je recommence à tondre la pelouse, donc ça peut être des tondes de pelouse, ça peut être des feuilles mortes si vous en avez dans un coin du jardin, ça peut être du vieux foin. Enfin, en tout cas voilà, il faut que le sol soit couvert.
Et ben voilà, Françoise, bon courage en tout cas pour ce jasmin. Vous en avez vous, c'est ce que vous avez dit à Anne-Marie?
Oui, on en a. Et
qu'est-ce que ça sent bon?
Moi, j'aime beaucoup le palisser en fait le long d'un mur.
Ah.
On peut complètement le guider, par exemple sur une jolie structure en osier, un treillage. Et ça fait partie de ces petites fleurs jaunes là qui illuminent en effet les journées un peu sombres de l'hiver.
Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h avec notre invité ce matin, vous l'entendez, Anne-Marie Nagelessen. Dans un instant, on entendra Denis et Florence au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous envoyer un mail à l'adresse direct@rcf.fr. On va écouter de la musique tout de suite et je vous propose un tout nouveau single, ça vient de sortir, d'Olivia Ruiz, tout de suite, qui avait fait la Star Academy il y a déjà quelques années et qui revient avec Le Sel.
Quand au foot, la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent, il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents, il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel. La cannelle, le piment. Qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige, il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume, il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Coger.
Le sel, c'était une chanson d'Olivia Ruiz que vous venez d'entendre à l'instant ce vendredi matin.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec notre jardinière du jour, créatrice du potager en carré à la française, Anne-Marie Nagelessen. Tout va bien, Anne-Marie ?
Tout va bien.
Eh ben, écoutez, c'est parfait. Et je vous propose d'écouter un auditeur tout de suite. Anne-Marie, est-ce que vous êtes bien avec moi ?
Non, c'est Denis.
Anne-Marie, je ne vous entends plus.
Oui, vous êtes là.
Super. Alors, c'est Denis qu'on accueille. Bonjour, Denis.
Bonjour, mes cœurs. Bonjour à votre invité. Moi, j'ai un souci avec mes choux brocolis. C'est mon fils qui les a semés il y a un mois dans sa maison. Et puis, on a eu la mouche du terreau. Et puis, maintenant, les feuilles, elles ont grillé. Et je ne sais pas trop si c'est perdu. Est-ce que je ne sais pas trop quoi y faire, quoi.
Merci beaucoup, Denis, pour cette question. Sur les mouches des terreaux, sur les brocolis, si j'ai bien compris, Anne-Marie.
Oui, bonjour, Denis. C'est des semis que vous avez démarrés en intérieur, alors dans une petite serre ou...
Oui, dans sa maison, il dit qu'il fait 20 degrés, quoi, 20-21. Et puis, il y a la mouche du terreau qui est arrivée. Bon, il a fait du phéromone dedans. Des phéromones et puis après des fois ils ont grillé.
Trop d'humidité aussi, je pense, humidité et chaleur. À mon avis, ça va être difficile à rattraper. Enfin, sauf si les petits plantules ont encore quelques feuilles qui leur permettent de faire la photosynthèse. Mais si la majorité de leurs feuilles sont grillées, vos petites plants vont malheureusement dépérir et il va falloir recommencer les semis. Ça arrive. Hein.
Ouais, je pensais si on les mettait dehors, là, avec un temps, parce que chez nous, il fait 12-13 degrés, là, il fait beau, il pleut, enfin, il fouinasse un peu. Est-ce que ça pourrait les sauver un peu s'il restait un peu de verre?
Alors, s'il y a un peu de verre, voilà, c'est ce que je vous disais. Si la majorité du feuillage est vraiment étiolé et a disparu, c'est pas la peine. Par contre, s'il reste quelques petites feuilles qui permettent à la plante de trouver son énergie, évidemment, il faut essayer réduire peut-être les arrosages aussi, faire que ce soit un peu moins humide.
D'accord.
Voilà, Denis.
J'ai juste une petite question à poser. C'était pour les ailes. J'ai pas pu les planter cet automne parce qu'ils peuvent être trop. Jusqu'à quand qu'on peut planter des ailes?
Alors, là, janvier, fin janvier, moi, je serais vous, je tenterai le coup. Comme c'est assez doux quand même comme hiver, il gèle pas trop. Mais c'est vrai que là, on est vraiment à la limite. Hein. Mais il faut tenter, on tente toujours. Hein.
Et ben voilà, d'accord. Denis, vous pouvez planter vos os.
Voilà, le mois prochain, on aura les premiers oignons qu'on va pouvoir planter.
Merci beaucoup, Denis, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Oui, il faut attendre en fonction des régions, hein, comme d'habitude, Anne-Marie, hein, c'est ça?
Oui, en fonction des régions. Et puis, voilà, c'est vrai que là, pour l'ail, les plantes, elles ont une horloge interne. Hein. Donc, elles sont sensibles aux températures, elles sont sensibles aux durées des jours et de la nuit. Donc, c'est vrai, quand on a passé la saison, des fois, c'est compliqué, mais parfois, ça peut marcher.
Une question de Marie, reçue par mail à direct@rcf.fr. Alors, ça va vous faire plaisir, puisqu'elle nous parle de plantes tomates avec de beaux fruits. Mais elle nous dit, hélas, parti 6 jours, il a plu beaucoup et le mildiou s'y est mis. Il n'y avait pas d'abri. Comment nettoyer ma terre du mildiou? J'ai bien sûr évité de laisser sur place les plants abîmés, mais il doit en être tombé malgré ses précautions. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Marie?
Alors, le premier conseil, c'est la rotation des cultures. Donc voilà, quand on a eu des plants de tomates à un endroit, en plus s'il y a eu mildiou, l'année suivante on va pas replanter des tomates ou des légumes de la même famille botanique, hein, des aubergines, des poivrons ou autres au même endroit. Après, ce que l'on peut faire, c'est apporter sur le sol, mais ce sera au printemps, des pulvérisations de prêles, par exemple.
Oui.
Et ensuite, alors moi, je suis très zen quand il y a eu le mildiou, parce que ce qui est aussi très important au-delà des rotations, c'est d'avoir un sol vivant. Et donc bien l'amender avec du compost, avoir des couvertures de sol permanentes. Et en fait, c'est la multiplicité des micro-organismes du sol, des champignons, qui vont faire que le milieu va se réguler de lui-même. Et les champignons du mildiou trouveront dans le sol un champignon antagoniste qui va être en fait leur prédateur, vous voyez, et le milieu va se réguler de lui-même. Moi, je sais personnellement qu'il m'est arrivé, et c'est pas bien, mais de replanter au même endroit des tomates parce que j'avais plus de place ailleurs. Et même s'il y avait eu le mildiou l'année précédente, je n'ai pas eu le mildiou parce que le sol est extrêmement vivant.
Donc voilà, rotation des plantes, c'est vraiment le conseil que vous pouvez essayer de transmettre ce matin.
Oui, tout à fait, parce que hein, voilà, le champignon est installé dans le sol. Si on lui redonne une plante qui est appétante pour lui, ben il va rester. Alors que le fait de faire tourner les cultures, eh bien, les champignons vont bouger et se déplacer et aller voir ailleurs, en fait.
Comment vous faites, vous, dans votre potager en carré à la française, pour peut-être éviter certaines maladies? Est-ce que vous avez des maladies de plantes parfois?
Alors, on a bien sûr des maladies de plantes, et j'ai envie de dire fort heureusement.
Oui.
Enfin, moi, voilà, plus le milieu est vivant, mieux c'est. Donc, ce qui est très important, c'est la qualité du sol. À partir du moment où une plante va trouver, puiser dans le sol ce dont elle a besoin, elle va aussi être beaucoup plus résistante face aux maladies. On va aussi appliquer la rotation des cultures.
Oh oui.
Donc, dans chaque petit carré de 40 cm, on va faire tourner les cultures. Et puis ensuite, quand les maladies sont là, donc c'est bien prendre soin des feuillages abîmés, les retirer, faire entre autres des pulvérisations de décoction de prêles. Et voilà, après, il y a d'autres recettes. On peut aussi utiliser des huiles essentielles.
Mais pour vous, s'il y a des maladies dans le potager ou dans des plantes, c'est bon signe? Ça veut dire quand même qu'il y a de la biodiversité, il y a du vivant dans ce jardin?
Eh oui, exactement. D'autant plus, il faut le savoir que parfois on peut avoir des maladies ou voir des insectes, et c'est la plante elle-même en fait qui a attiré ces insectes, ou qui même va laisser certaines de ses feuilles à des champignons. On appelle cela un abandon cellulaire.
Oui.
Et en fait, pendant que la plante abandonne certaines feuilles aux prédateurs, eh bien, elle se renforce par ailleurs et elle produit des molécules qui vont lui permettre, dans ses autres parties, de se protéger de ce champignon, de cet insecte.
Anne-Marie,
c'est merveilleux la nature.
C'est merveilleux la nature, et vous essayez de transmettre ça aussi à l'antenne, et ça s'entend. Anne-Marie Nagelessen, on va marquer une petite pause et dans un instant, on vous accueillera toujours avec vos questions de jardinage et de potager au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Anne-Marie Nagelessen, notre jardinière du jour, en direct de Chinon, où vous vous trouvez actuellement, pas très loin de Tours. On a un cadeau à offrir à nos auditeurs ce matin, et c'est grâce à vous. Il s'agit d'un livre avec de très très bons conseils. Anne-Marie, est-ce que vous pourriez nous le présenter ?
Oui, alors c'est le dernier livre que j'ai écrit qui présente ma méthode et dont le titre est « Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité ». Et donc c'est vraiment un ouvrage très complet qui part de tous les conseils pour la création du potager en carré, le sol, comment accueillir la biodiversité. Et ensuite, on trouve 70 fiches de culture en carré pour à la fois des légumes, des herbes aromatiques et aussi des fleurs comestibles.
Ouais.
Donc voilà, ça permet d'avoir 70 plantes, une très grande diversité de récoltes, ce qui est très bon aussi pour la santé.
Voilà le livre de la méthode du potager en carré à la française, avec toutes les bases pratiques pour installer son potager en carré et l'entretenir en agroécologie, avec des outils de planification des cultures, avec des fiches comme vous venez de le dire. On a un exemplaire, il y aura un heureux gagnant ou une heureuse gagnante ce matin de ce livre. Et pour tenter votre chance pour remporter le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité, vous envoyez un mail avec vos coordonnées, avec un petit message si vous le souhaitez, à l'adresse direct@rcf.fr. Un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Bonne chance à tous. Et tout de suite, on accueille Bernadette. Bonjour Bernadette.
Bonjour monsieur et madame. Je téléphone, moi je n'ai pas de jardin, mais j'ai des fleurs sur mes fenêtres. Et voilà que mes géraniums lièges, qui pendent beaucoup et qui fleurissent beaucoup à la saison, sont envahis de petites chenilles qui sont vertes au départ et qui deviennent grises.
Oh.
Et qui me dévorent tous mes géraniums.
Donc c'est Bernadette.
Oui.
Bonjour Bernadette.
Bonjour madame.
Bonjour. Alors déjà, comme on en parlait tout à l'heure, souvent on a des insectes comme ça qui vont s'attaquer à des plantes qui sont un peu fragilisées. Donc moi je m'intéresserais déjà au substrat qu'il y a dans vos jardinières. Est-ce qu'il faudrait donc régénérer peut-être ce terreau ou lui ramener un petit peu d'engrais parce qu'il a peut-être perdu de ses capacités?
Et faudra que je fasse ça.
Oui.
Oui, ça fait un bout de temps que vous n'avez pas changé le terreau, peut-être.
Oui, je le change à peu près chaque année, mais en fait, là, quand
oui.
même.
Voilà, il faut le changer en effet chaque année parce que ça perd très vite de ses qualités. Donc je commencerai par ça, redonner un peu de vigueur aux plantes pour qu'elles soient moins fragiles et moins appétantes pour les insectes. Et ensuite, voir en jardinerie, il y a des produits que l'on peut pulvériser. Alors bon, moi j'aime pas ça, hein, mais c'est...
Oui.
Ça se termine en cides, hein. Ils sont insecticides, mais c'est le BT en particulier qui est actif sur les chenilles. Mmh. Et peut-être là, le faire exceptionnellement avant que tous vos géraniums ne disparaissent, hein, ce qui serait bien dommage. Mmh.
Mais il n'y a pas grand-chose à faire de manière extrêmement naturelle, d'après vous, Anne-Marie ?
Sur les chenilles, c'est compliqué.
Ouais,
hein.
Ouais,
après, on utilise des produits naturels à base d'ail ou autres, mais sur les chenilles, le BT est le plus efficace. Moi, quand j'en ai dans le jardin, ce qui évidemment arrive, hein, puisque vous l'avez compris, ça me dérange pas. C'est vrai que je cueille les chenilles à la main. Hein,
ah bon ? Ça pique, non ?
Non, mais là, on n'est pas sur des chenilles dangereuses, quoi. Donc,
ouais.
Voilà, prochainement, on va avoir un poulailler, donc les poules seront très contentes.
Voilà. Ah bah, mettez une poule, Bernadette, sur votre balcon. Ça peut être une solution.
Ça va être compliqué.
Merci, Bernadette, pour votre question. Bon courage avec cette affaire de chenilles. Ça rejoint quand même une question de Blandine que j'ai reçue également. Anne-Marie, je vais vous la lire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, hein. Mais ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas, je le rappelle. Une question sur un cerisier qui présente depuis 3 ans une invasion de larves chenilles noires au printemps avant l'arrivée des fruits. Elles mangent les feuilles et forme une gangue cocon blanc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est un mot qu'elle a mal écrit. Plutôt à l'extrémité des branches. Les oiseaux finissent par venir les manger, je pense. Mais du coup, j'ai beaucoup moins de cerises. J'ai l'impression que mon arbre souffre. Qu'est-ce que je peux faire ?
Ouais, je vois pas ce que c'est comme comme chenille. Ça me parle un peu parce que moi j'ai eu la même chose l'année dernière, mais sur des pommiers.
Ouais.
Donc où on avait ces
des larves cocons noires en fait.
Voilà, on avait ces cocons blancs.
Ouais.
Moi personnellement, je ne fais rien. D'ailleurs, elle l'a bien dit. Les oiseaux sont arrivés et ont régulé le milieu. Je vais peut-être vraiment surprendre, hein, mais je suis tout le temps dans cette pratique d'être le moins interventionniste possible.
Oui.
Je sais qu'il y a toujours des moments où on a des pics d'invasion de certains insectes qui prennent le dessus, mais ça dure 15 jours, 3 semaines, et ensuite on a leurs prédateurs qui arrivent. Donc voilà, ces petites chenilles, elles ont aussi leur utilité pour nourrir d'autres animaux, dont les oiseaux, etc. Et d'ailleurs, on le voit très bien, je veux dire, le milieu naturel qui nous entoure, dans lequel l'homme intervient peu, il est aussi envahi de limaces, de chenilles,
oui.
et par contre il ne disparaît pas, quoi, parce que le milieu est tellement riche qu'il se régule de lui-même. Et puis bon, quand on est en agroécologie, ben on accepte normalement de perdre 20% de ses récoltes. Donc si la production du fruitier est un peu moins importante, moi ça ne m'inquiète pas plus que ça, quoi. Ça fait partie de la nature.
Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe avec les chenilles en ce moment en France, mais on a encore un auditeur, Philippe, qui nous dit, moi, chaque année, ma culture de brocoli est attaquée par la pyride du chou. Ce sont des chenilles, hein, si je ne me trompe pas, Anne-Marie. Elles envahissent les plants de grande taille et compromettent la récolte. Est-ce qu'il y a un traitement préventif? Ça aussi, c'est intéressant. Ou alors une pulvérisation à faire. Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, hein, de toute façon.
Oui. Ah bah ça, les pyrides sont des coquines. C'est un petit papillon qu'on a la chance de voir. Oh, attendez, excusez-moi, j'ai des chiens qui aboient dans la maison.
Chiens. Non, mais.
Ouais. Et donc, on a la chance de pouvoir voir ce petit papillon puisqu'il vole la journée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, quand je les vois, eh bien, je sais que prochainement, je vais avoir des chenilles. Et donc, je suis attentive et je les récolte à la main, en fait. Hein. Je ne fais vraiment aucun traitement qui se termine par seed.
Par seed, voilà. Le message d'Anne-Marie Négiolessène ce matin. Continuons de vous entendre au 04 72 38 20 23. Je vous propose d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour. Alors, j'habite Vichy. Hein,
oui.
Je vais peut-être vous faire rire ou je ne sais pas. Voilà, j'ai planté des tomates l'an dernier dans une serre que mon mari m'a fait, mais elle n'est pas chauffée. Hein. Bon, alors j'ai mis des tomates noires de Crimée, ananas, tomates grappes et tomates cerises. Alors, au pied de chaque tomate, avant de planter, je mets des orties, je mets un peu de compost, du bon terreau, bon bref. Mais au pied de chaque plantation, il y a des trous, mais des trous très 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 profonds, hein, dans lesquels on peut enfiler une branche. Alors, j'ai continué. Pour arroser, je mettais mon tuyau dans le trou, je laissais l'eau couler pendant plusieurs minutes, et je peux vous jurer qu'à la fin de la saison, au moment de récolter, j'ai eu des tomates noires de Crimée, ananas, qui pesaient 900 grammes. Alors, est-ce que ce sont des rats taupes? Ce ne sont pas des taupes de toute façon, parce que ça fait un monticule de terre. Là, c'est uniquement des trous très profonds. Je pense que ce sont des rats taupes, mais j'en suis pas sûre. Mais alors, pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup d'eau, il y a eu des fruits merveilleux, les tomates grappes. Et alors, attendez, pour finir... C'est que ces pieds de tomates, j'en ai mis aussi dans mon jardin.
Oui.
Là, je n'ai rien eu du tout.
Ah oui.
Dans le jardin, rien.
Dans la serre, oui, mais pas dans le jardin, c'est ça?
Oui, mais dans la serre, avec le tuyau d'eau, l'eau de pluie, bien sûr. Hein. Mais 900 grammes, hein,
c'est incroyable.
Les tomates. Et magnifique, très bonne, une merveille. Alors, est-ce que c'est le travail des bestioles? Mais elles n'ont pas bouffé les racines. De toute façon, les râteaux, en général, ils bouffent les racines.
Ouais. Merci, Elisabeth. Bah, dis donc, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Anne-Marie, c'est une belle anecdote, une belle histoire.
Oui, tout à fait. Et en fait, ça vient dans ce que je disais précédemment, hein, c'est que bon, faut pas s'affoler. Hein, finalement, de toute façon, la nature est remplie d'insectes, d'animaux divers. Le jardin est à eux avant tout. Hein, nous, on ne fait finalement que passer. Et donc, oui, je pense pas que ce soit des râteaux-pieds parce que, en effet, les plants de tomates auraient été moins contents. C'était peut-être tout simplement, voilà, des petits mulots, des petites souris ou autres. Ouais. Par contre, ce que j'ai entendu, hein, c'est que le sol avait vraiment été préparé exactement comme il fallait.
Absolument. Donc, ouais.
Il y a cette tradition de mettre en effet des orties lors de la plantation, dans le trou de plantation. Ça a un effet qui s'appelle éliciteur, où en fait on va renforcer la plante. Donc ça y a certainement contribué. Ensuite, voilà, j'ai entendu qu'il y avait du compost qui avait été apporté, et puis un arrosage quand même régulier. Hein. Moi, je suis vraiment pour ne pas brusquer les plantes. Il y a certains jardiniers qui disent qu'il faut endurcir les plantes tomates en parfois ne les arrosant pas. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Les légumes ne sont pas longtemps dans le potager. Finalement, un plant de tomate, il est là pendant 5 mois. Je préfère qu'il soit heureux, épanoui, en bonne santé, et comme elle l'a illustré, ils ont vraiment bien produit.
Elles étaient bonnes, ces tomates, Elisabeth ?
Ah, une merveille.
Ah. Et vous auriez pu nous en envoyer ?
Oui, j'aurais pu.
La prochaine fois, vous faites ça. Merci en tout cas, Elisabeth. C'était très agréable de vous entendre. Vous avez beaucoup de tomates, vous, du côté de Chinon, dans le potager en carré à la française, Anne-Marie?
Oui, c'est pareil.
Ça pousse bien?
Oui, complètement. Bon, oui, là, sans problème. On a quand même des beaux étés, hein, ces dernières années. Donc, tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, piments, voilà. Et puis, c'est vrai que les noirs de Crimée, on en a beaucoup de variétés, en fait, anciennes. Hein, on a quoi? Peut-être chaque année, ouais, 15, 20 variétés de tomates différentes.
Je rappelle que vous pouvez tenter de remporter un exemplaire du livre Le potager en carré à la française, Le jardin nourricier tout en biodiversité. C'est notre invitée Anne-Marie Najolessen qui vous offre ce livre avec de bons conseils, de bonnes bases pratiques pour installer son potager en carré et l'entretenir en agroécologie. Plus de 70 fiches de culture en carré pour des légumes, herbes aromatiques et fleurs comestibles. Et pour tenter de remporter ce livre, vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr avec vos coordonnées, bien sûr, direct@rcf.fr. Bonjour Albertine.
Bonjour. Donc, je suis jardinière débutante en potager.
Oui.
Même si, bon, j'ai l'habitude de jardiner, donc jardin d'agrément et fruitier, mais je débute en potager et je cherche comment augmenter ma récolte de pommes de terre qui est toujours très décevante. Voilà. Mmh. Alors, donc, je plante mes pommes de terre bio ou mes plants au lilas et je les récolte aux altéas. Mais j'ai quelques pommes de terre par pied et donc c'est très décevant. Voilà, je travaille mon sol à la fourche bêche que j'ai amendé donc au compost de forêt plus compost de jardin et un peu de fumier de cheval enfoui en hiver. Je fais la rotation des cultures et donc ça marche moyennement. Donc quels conseils pourriez-vous me donner? Est-ce qu'il y a des sortes de pommes de terre donc qui produisent mieux ou que modifier dans ma pratique?
Merci Albertine pour cette question. Alors ça, c'est tout pour vous Anne-Marie.
Oui, bonjour Albertine. Bah, déjà, je pense que vous avez bien préparé votre sol. Je vais peut-être juste ajouter dire un petit bémol. Mais bon, voilà, la pomme de terre pousse en effet dans le sol. Il faut bien l'ameublir. L'idéal, encore une fois, c'est d'utiliser la grelinette pour ne pas retourner le sol et donc préserver ces différents niveaux d'oxygénation. J'ai entendu que vous aviez apporté du compost. Donc, mon petit bémol, c'est par rapport au compost de forêt. Moi, je ne l'utilise pas du tout au potager parce que c'est un compost qui va être beaucoup plus riche en carbone et avec moins d'azote et moins de bactéries. Et il correspond aux besoins des arbres, mais pas aux besoins de nos légumes. Donc, il faut vraiment mieux partir sur notre compost du jardin ou notre compost de la cuisine. Autre chose aussi, j'ai entendu que vous aviez apporté du fumier, donc formidable à l'hiver, mais que vous l'aviez enfoui. Donc là, de la même manière, on n'enfouit pas la matière organique. On vient simplement la déposer à la surface du sol et ce sont tous les décomposeurs et les êtres vivants du sol oui. qui vont intégrer cette matière organique progressivement. Je ne vous ai pas entendu, mais je pense que vous le faites, Albertine, les pommes de terre, évidemment, on les plante assez profondément et on va venir les buter tout au long de leur croissance pour justement encourager le développement des tubercules. Et puis ensuite, tout dépend la variété que vous avez plantée. On a certaines variétés qui sont très peu productives. Il y en a certaines qui sont délicieuses comme la rate, mais en quantité c'est décevant, on va dire, par rapport à d'autres variétés comme les charlottes qui sont beaucoup plus productives. Donc vous avez vraiment bien fait les choses, à part deux petits détails avec ce compost de forêt et ce fumier qui a été enseveli. Mais sinon, vous avez bien fait les choses et je pense que c'est plus la variété que vous aviez plantée qui était moins productive que ce que vous espériez en fait.
Voilà Albertine.
Bon, merci
Bravo.
Merci.
Bon courage.
Avec plaisir. Et bravo de vous lancer dans le jardinage.
Oui,
d'un potager.
Oui, c'est un grand plaisir. Et puis, je le fais avec mes petites nièces. Et voilà, on y prend beaucoup de plaisir avec les enfants et tout.
Eh ben, vous faites bien. Merci beaucoup, Albertine, de nous avoir appelé et d'avoir partagé avec nous cette motivation que vous avez pour jardiner, pour faire votre potager. Allez, Anne-Marie, on va écouter de la musique. Voici Christophe Willem et ça va vous laisser le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23 avec toutes vos questions de jardinage et de potager. À tout de suite.
Un peu révolté, à quoi ça sert? Personne pour écouter. Allô, la terre, allô, allô, maman, comme j'ai bobo. Je vis dans un monde, maman, où tout est faux. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Faut m'expliquer. Je veux plus attendre d'être moi. Je veux m'inventer, réinventer ma vie comme un ado. Et pourquoi pas, maman, me trouver beau? Comme un pantin.
comme un pantin, c'était Christophe Willem pour vous accompagner sur RCF.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et je rappelle que vous pouvez tenter de remporter un exemplaire du livre « Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité ». Un livre avec beaucoup de bons conseils, de bonnes pratiques que vous pouvez tenter de remporter en envoyant un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. direct@rcf.fr. Bonne chance à tous. Anne-Marie, je vous lis un message de Véronique qui nous dit « Je débute le jardinage », un peu comme Elisabeth tout à l'heure, « et comme je viens d'avoir un jardin, je pensais faire de la permaculture. Alors je vois vos gros yeux pour avoir mes propres légumes. Je suis dans le sud, donc il fait très chaud l'été. Est-ce qu'il y a des légumes à choisir en priorité pour ne pas avoir à trop les arroser ?» Alors, question subsidiaire, Anne-Marie, vous me voyez venir. Est-ce que Véronique peut se lancer dans une autre manière que la permaculture ?
Bah, oui, moi, j'encourage évidemment à ne pas pratiquer ce courant de mode qui est déconnecté en fait de la connaissance des sols et qui fait que il y a des pratiques qui sont compliquées et qui ne durent pas dans le temps. Je ne peux vraiment pas encourager parce que j'ai tellement de gens qui viennent en stage. Parce que voilà, elles sont déçues que voilà. Alors que l'agroécologie, on n'invente pas de concepts intellectuels comme les lasagnes, les buts. Ça, c'est des constructions d'un esprit humain, quoi. L'agroécologie, on observe la nature, on apprend ses propres fonctionnements qui sont toujours très simples et on les reproduit dans notre jardin. Donc, alors après, par rapport au sud de la France, justement, moi, je l'encouragerais surtout à travailler la qualité de son sol, en particulier pour que les plantes aient un sol humifère et qui retiennent bien les eaux d'arrosage et que du coup, il y ait pas de stress hydrique et que les cultures soient toujours dans un sol qui reste frais et humide. Et ensuite, utiliser bien évidemment et en particulier dans le sud, des couvertures de sol permanentes. Donc en agroécologie, on appelle cela des mulches,
oui.
Ça veut dire paillis. Et donc je vais encore reparler de la permaculture. Dans les mulches, il ne faut jamais utiliser la paille, qui est une très mauvaise couverture de sol. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je n'encourage pas ce courant de mode. Mais voilà, on a plein de choses à portée de la main. Ça va être les tondes de pelouse.
Oui.
Ça va être si on taille les haies, on peut broyer les feuillages, même très simplement avec une tondeuse. Et on va déposer ce broyat de taille de haie sur le sol. Ça peut être des vieux légumes qu'on a arrachés. On a fini de les récolter. Les feuillages qui restent, on les arrache. Donc, soit on les dépose comme ça sur le sol, soit on broie aussi tout simplement avec la tondeuse. Et quand on n'a vraiment plus rien sous la main, alors bien sûr, il faut que j'ajoute les feuilles mortes à l'automne. Et quand on n'a plus rien sous la main, par contre, on va utiliser du vieux foin. Ça, c'est idéal pour le sol, c'est équilibré, alors que la paille crée trop de déséquilibre dans le sol.
Voilà, donc c'est totalement possible de passer outre la permaculture pour, comme l'a demandé Véronique, pour vraiment se lancer dans le jardinage et dans son potager, Anne-Marie.
Oui, complètement, que ce soit pour le potager ou toutes les autres pratiques.
Et on peut mettre en place, par exemple, un potager en carré à la française.
Oui, par exemple. Bon, moi, je n'impose rien.
Oui. Vous donnez jardin, des conseils, c'est ça qui est bien, Anne-Marie.
Non, le jardin, c'est un espace privé, c'est un espace même intime. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, de poèmes ou autres. C'est une vraie projection de soi, de son âme, et c'est un des rares espaces de liberté, il faut le dire, qu'on a encore dans notre société. Donc moi, j'encourage vraiment tout le monde à s'épanouir, à être créatif dans son jardin. Et donc, ici, à l'association, on donne des cours de jardinage, mais aussi à des personnes qui font du jardinage traditionnel. Maintenant, le potager en carré à la française, c'est mon bébé, et je trouve que c'est tellement génial d'arriver à vivre en autonomie avec seulement 12 mètres carrés. Le temps de travail est tellement moins long. La pénibilité même physique, hein, voilà, entretenir seulement 12 mètres carrés, c'est tout à fait faisable, même quand on a un travail salarié. Donc je sais que j'apporte vraiment des solutions intéressantes et probantes pour nos modes de vie contemporains, et je ne peux que encourager les personnes au moins à l'essayer, quoi. Et après, chacun fait ses choix, bien sûr, de mode de culture.
Peut-être quelques conseils très simples, Anne-Marie, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. C'est passé extrêmement vite, hein, comme vous pouvez le constater. Si on a envie de se lancer dans le potager en carré à la française, quel est le premier conseil qui vous vient à l'esprit?
Alors, le premier conseil, c'est surtout bien choisir l'emplacement du potager. Moi, c'est valable, un potager en carré ou n'importe quel potager, mais voilà, les plantes ont absolument besoin d'ensoleillement, au minimum 6 heures par jour, y compris aux heures les plus chaudes. Donc, bien observer déjà le terrain que l'on a, l'endroit où on a envie d'installer le potager, prendre le temps, même sur plusieurs jours, à différentes heures de la journée, voir les endroits qui sont les mieux exposés. Là, en ce moment, on est en hiver, on a des journées venteuses. Où est-ce que la gelée le matin reste le plus longtemps, parce que ça veut dire que c'est des endroits qui sont froids. Où est-ce que les feuilles mortes ont été balayées par le vent? Oui. Donc ça, voilà, ça veut aussi dire que c'est des endroits qui vont être froids, et il faut mieux choisir des lieux plus abrités. Et je vais juste finir en disant aussi, il faut être assez éloigné d'arbres ou de haies, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre les racines de ces arbres, de ces haies, et les racines des cultures de nos légumes.
Donc bien connaître son terrain, bien connaître son jardin, et puis une fois qu'on a ce conseil, bah, il faut se lancer. Et comme vous dites souvent, Anne-Marie, le jardinage, c'est aussi parfois se tromper, il faut essayer, il faut tenter, et puis un jour, ça prend.
Ah oui, complètement. Et en fait, voilà, chaque année, enfin moi, ça fait 30 ans que je cultive un potager. En plus, bon, avec des enjeux quand même, puisque le jardin est ouvert à la visite, etc. Mais chaque année, il y a des choses que je rate. Chaque année, je suis face à des questions pour lesquelles je n'ai pas les réponses. Et c'est ce qui fait justement l'intérêt. Il n'y a pas de routine et on est tout le temps à apprendre de la nature.
Et si on veut en savoir plus, rendez-vous sur votre site internet potagerencarré.info, ou alors vous pouvez aussi tenter de remporter ce livre Potager en carré à la française, Le jardin nourricier tout en biodiversité, avec de très nombreux conseils rédigés par notre invitée Anne-Marie Nageulessen. Et pour tenter de remporter un exemplaire de ce livre, vous envoyez un mail tout de suite avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr, direct@rcf.fr. Bonne chance à tous. Merci Anne-Marie Nageulessen d'avoir été avec nous.
Merci Melchior, et beau début de jardinage à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
C'est gentil Anne-Marie, on est très heureux de vous accueillir dans cette émission. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure. D'ici là, passez un bon week-end, jardinez bien. Merci à Christophe et Catherine à la réalisation, et on se retrouve nous lundi dans Je pense donc j'agis. Bon week-end.